Bonsoir. Merci de votre présence. Merci d'être venus très nombreux pour cette séance, malgré le très mauvais temps. Pardon à tous ceux qui n'ont pu entrer dans la salle, faute de place, et qui suivront la rencontre sur un écran grâce à un report vidéo. Ce soir, la Bibliothèque publique d'information est très heureuse d'accueillir au Centre Pompidou une figure majeure de la littérature et de la scène littéraire française, Philippe Solers, qui est à la fois romancier, essayiste, fondateur et directeur de la revue L'Infini et de la collection du même nom aux éditions Gallimard. Tout en affirmant un style et un univers propre, Philippe Solers semble avoir tout expérimenté de la littérature contemporaine à travers la multiplicité des formes qu'empruntent ses écrits, et plus particulièrement ses romans, plus d'une vingtaine à ce jour. Roland Barthes dit dans Solers écrivain qu'il pratique une écriture de vie. Et je cite, « qu'il y a chez lui, j'en suis persuadé, un thème fixe, l'écriture, la dévotion à l'écriture. » Cette dévotion à l'écriture, très liée assurément à une autre dévotion, celle de la lecture et de la littérature, je vais laisser Nathalie Chrome tenter d'en percer le secret. Nathalie Chrome, qui est journaliste littéraire et responsable du service livre à Télérama. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.
Bonsoir, donc, et merci d'être là. Merci à Philippe Solers, surtout, d'être là. Et je vais à mon tour, après Francine Figuère, essayer de vous présenter en quelques mots. Quelques mots, ça semble un peu court, et même très court, pour dire 50 ans d'écriture, 50 ans de présence dans ce qu'on peut appeler le paysage littéraire français. Présence à travers, si j'ai bien compté, près de 65 livres publiés, romans, essais, recueils, depuis le tout premier, Une curieuse solitude en 1958, jusqu'au Voyageur du temps, qui paraît donc aujourd'hui chez Gallimard, et dont nous allons parler longuement ce soir, je crois. Quelques titres, j'ai pas trop bien su lesquels, mais bon, j'ai pris drame, nombre, loi, paradis évidemment, femme, portrait du joueur, le cœur absolu, les folies françaises, le secret, studio, une vie divine il y a 3 ans, également la guerre du goût et éloge de l'infini. Votre présence dans ce paysage, c'est aussi à travers 2 revues qui ont marqué leur époque et sans doute au-delà, telles quelles dans les années 60 et 70, puis L'Infini à partir de 1983. Ces plus de 60 livres, Jacques Henrich, dans un beau texte qu'il consacre dans Art Press aux voyageurs du temps, ces livres donc, Jacques Henrich écrit qu'ils sont comme, je cite, « les étapes successives d'une nouvelle odyssée, une odyssée plus étrange, plus improbable, plus inconcevable que celle de l'Ulysse grec », puisqu'en l'occurrence, il ne s'agit plus pour un sujet humain de parcourir les mers et de revenir à son point de départ, mais de voyager dans le temps. Et l'on aura donc l'occasion de l'évoquer, de l'expliquer, ce voyage dans le temps que vous avez entrepris, Philippe Solers, l'occasion de souligner aussi que c'est un voyage au long cours, de dire la profonde cohérence de cette œuvre, la constance, la ténacité certaine dont elle témoigne depuis les tout débuts, ce que pointe implicitement Jacques Henrich dans cet extrait que je viens de citer. Et peut-être pourrez-vous faire devant nous le point sur ce voyage, où en êtes-vous de cette odyssée? Mais pour commencer, Philippe Solers, puisque vous en étiez d'accord quand on a évoqué la chose avant de, enfin, il y a quelques jours, on va peut-être parler et évacuer, si je puis dire, la question du genre romanesque tel que vous l'entendez et tel qu'il suscite parfois l'incompréhension chez certains lecteurs. Vous évoquez cela d'ailleurs dans Les Voyageurs du temps, vous parlez d'une littérature débarrassée de la story, de la narration, une littérature qui soit loin, je cite, des romans familiaux, psychologiques, sociologiques, romantiques et sentimentaux qui s'accroupissent aux étalages d'une ignorance de plus en plus évidente et encouragée. C'est sévère.
Les romans qui s'accroupissent aux étalages est une formule de Isidore Ducasse, autrement dit, de l'autre amant. C'est quelqu'un qui a compris très tôt, comme un certain nombre de personnages que vous avez vu hanter ce jardin, ou plutôt être réellement dans ce jardin, qui a s'est rendu compte très tôt qu'il y avait une crise profonde, non seulement de la littérature, du roman, comme beaucoup d'autres s'en sont rendus compte à l'époque, que ce soit Mallarmé ou d'autres, mais bon, Mais les romans qui s'accroupissent aux étalages, vous voyez, c'est ce qu'on pourrait même appeler, d'un terme moderne, puisqu'il est employé encore aujourd'hui, les assises du roman. Les assises du roman, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la marchandise et qui fait que désormais, dans le marketing littéraire, le roman à l'anglo-saxonne fonctionne, alors que le roman français paraît étriqué, familial, pénible, etc. Donc le roman pour le marché, parce que quand on me dit que je ne fais pas de vrai roman, ce que j'entends, c'est la voix du marché. Pas d'autre chose, c'est pas la voix d'une critique littéraire sérieuse, c'est la voix du marché. Le marché m'interpelle, comme, vous savez, comme dans Le Dictateur de Chaplin, tout à coup on est aux toilettes et je vois apparaître la figure du marché, il n'a pas besoin d'avoir de figure d'ailleurs, qui me dit, toi, tu ne fais pas un vrai roman. Ça me poursuit partout, je rentre chez moi et je vois qu'il y a des invités qui me disent, ah, c'est dommage, vous n'avez pas fait un vrai roman. Et ça me suit. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, la chose suivante, c'est que, en principe, marchandise étant marchandise, et là, Les Voyageurs du Temps, c'est tout à fait autre chose que la marchandise. Ce sont des œuvres qui se sont imposées, justement, dans le temps, parfois avec des retards considérables, dont l'histoire est parfaitement romanesque. Qu'est-ce qu'il y a de plus romanesque que ce qui est arrivé aux Poésies de Lautréamont? Qu'est-ce qu'il y a de plus romanesque que ce qui est arrivé à Une Saison en Enfer ou aux Illuminations de Rimbaud? Qu'est-ce qu'il y a de plus romanesque, mon Dieu? Et quand je dis ça, je m'émeus comme si je lisais le roman que j'ai envie de lire, enfin, des révélations là-dessus, que la vie de Hölderlin, par exemple, à Bordeaux, etc., etc. Qu'est-ce qu'il y a de plus romanesque? Ce romanesque-là, au fond, alors n'intéresserait personne. Pourquoi? Parce que, alors, le roman, pour le marché, c'est un livre qu'on ouvre pour voir un film. Donc, c'est-à-dire que j'ouvre et je suis la story, je m'intéresse aux personnages qui ont des embarras en général, parce qu'il faut qu'ils aient des embarras. S'ils n'avaient pas d'embarras, il n'y aurait pas de roman. Donc l'amour est coincé, la violence règne, le 11 septembre est partout, je ne sais plus dans quoi je me traîne, dans une sorte de poussière minuitiste, par exemple, peut-être en province, alors profonde. Hein. Donc je lis tout ça et j'ai un vrai roman. Ça, c'est un vrai roman. C'est-à-dire un livre où l'on peut suivre, pas à pas, l'histoire coincée des vies individuelles aujourd'hui. Voilà. Ce que j'essaye de faire est évidemment tout autre, d'où l'incompréhension assez partagée, mais ça n'a aucune importance, c'est de rendre le romanesque de pensée qui est manuel et qui est éminemment romanesque. Le romanesque de pensée, les romanesques de vie, et qui sont dans ces aventures que j'appelle celles des voyageurs du temps. Donc moi, j'ai la prétention de faire le vrai roman de mon époque. Tout le reste va disparaître, comme vous avez déjà oublié la plupart des films et des émissions télévisées qui déjà se sont enfoncés dans la fumée.
Vous notez dans les Voyageurs du Temps que vous, enfin le narrateur du roman a entrepris un grand jeu à travers la mémoire et l'archive. C'est peut-être ça aussi ce qui pourrait être une définition du roman. Ce jeu...
Oui, c'est ça qui me paraît extraordinairement romanesque aujourd'hui. C'est de faire sortir ces aventures-là, qui sont toutes passionnantes. La vie de Kafka est passionnante, celle de Lautréamont est passionnante. C'est pour ça que je suis allé rue de Lille. Vous avez vu une plaque, c'est le 5 rue de Lille. C'est là où Isidore Ducasse, comte de Lautréamont, venait toucher chez son banquier, qui s'appelle Darras, c'est le 5, l'argent qu'il recevait de son père à Montevideo. Qu'est-ce qu'il y a de plus romanesque? Il venait là, hein? Et pourquoi? Parce qu'il voulait absolument faire imprimer ses œuvres. Les poésies. Heureusement qu'il y a eu André Breton et Louis Aragon pour aller en 1919 déterrer ça à la Bibliothèque nationale. Sans quoi vous ne sauriez pas. D'ailleurs, personne ne le sait toujours parce que personne ne lit. Ce qui est intéressant, c'est ça. C'est à la fois des grandes célébrités et personne ne sait de quoi il s'agit. C'est ça qui m'intéresse beaucoup. Donc, au 5 rue de Lille, c'est la même adresse que c'est l'adresse du banquier d'Arras. Qu'est-ce qu'il y a de plus romanesque que de voir un jeune homme de 20 qui va mourir à 24 ans pendant la Commune de Paris, on mourrait de faim à Paris. Qu'est-ce qu'il y a de plus romanesque que de voir Isidore Ducasse, comte de Lautréamont, venir au 5 rue de Lille chez son banquier pour toucher l'argent, pour faire imprimer à compte d'auteur. Ben, c'est poésie. Eh bien, pourquoi ? Parce que c'est la même adresse que Lacan. Et là, qu'est-ce qu'il y a de plus romanesque que de dire « Je vais du 5 rue Sébastien Botin au 5 rue de Lille et je tombe à la fois sur tous les vivants, plus vivants que les morts peut-être, qui sont dans le jardin des éditions Gallimard, jusqu'au 5 rue de Lille où je retrouve, alors qu'il était dans le jardin, Lautréamont en train de toucher son argent. » Qu'est-ce qu'il y a de plus romanesque ? C'est extraordinaire que personne ne se rende compte de la puissance romanesque de ces évocations qui viennent, comme si j'appelais les morts à être plus vivants que les vivants d'aujourd'hui, en tout cas que tous les romanciers, la plupart. Donc, le 5 rue de Lille, et là, un peu à côté, il y a Max Ernst, pour d'autres raisons, si vous voulez que je vous expliquerai. Mm-hmm. Mais alors, j'allais chez Lacan, qui était un grand ami, pour le chercher, et il m'invitait, et je le raconte, ça, il m'invitait à dîner la plupart du temps. J'allais chercher, c'est à la fin de la journée, il poussait le grand soupir. Oh, il avait entendu des conneries romanesques, c'est-à-dire névrotiques. Toute la journée, il avait gagné son argent comme ça, il n'en pouvait plus, il avait des billets plein les poches parce qu'il se faisait payer rigoureusement, un drôle de type. C'est très romanesque la vie de Lacan, il n'y a rien de plus, surtout si on l'a connu. Et nous allions dîner en face à la calèche où il m'offrait du... Bon, donc, les gens venaient chez Lacan pour payer en analyse ce qu'ils ne savaient pas, qu'ils disaient, c'est pour raconter leur raison. Et moi, j'y allais pour avoir un dîner gratuit. Voilà. Est-ce que c'est pas romanesque ?
Est-ce qu'on peut dire que, d'une certaine façon, vous êtes dans une conversation avec ces auteurs, ces œuvres que, évidemment, je ne dirais pas ces auteurs et ces œuvres du passé, mais précisément
mais c'est pas
du
le passé,
présent.
C'est...
Non, mais précisément. En fait, la question que je voulais vous poser, peut-être en préambule, même si on a déjà commencé à parler, c'était un peu de voir quelle relation il existe pour vous entre le fait d'écrire et le fait de lire. Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que ça procède de
mais bien
quelque
sûr,
chose de très semblable ?
Mais bien sûr, c'est la raison pour laquelle, la lecture étant en état de dévastation continue, l'écriture sera de la même ruine. Bon, écoutez, ça c'est la formule, il faut la prendre par cœur. Pour savoir écrire, il faut savoir lire, et pour savoir lire, il faut savoir vivre. Donc vous pouvez prendre la formule dans tous les sens. Si vous ne savez pas lire, ben c'est pas la peine d'écrire. Alors on peut vérifier dans chaque livre jusqu'où va la limite de lecture d'un auteur, quel qu'il soit. Tous les auteurs intéressants sont d'extraordinaires lecteurs, bien entendu. C'est-à-dire qu'ils convoquent au présent le passé, et c'est pour ça qu'ils sont dans l'avenir. Donc, si vous savez pas lire, vous savez que, je sais plus quel éditeur me disait, je vois des jeunes poètes, je leur dis qu'est-ce que vous lisez, ils me répondent, oh rien, je ne veux pas être influencé. Bon, alors, c'était comme si Picasso vous avait dit, je regarde pas la peinture, parce que, voilà. Alors que c'est le contraire, un des voyageurs du temps, vous avez vu qu'il apparaît, dans son tableau, l'homme à la clarinette, en même temps, que je mets en avant pour célébrer les éditions Gallimard, un noir, mais vraiment très noir, pas demi-noir comme Obama, très très noir, avec une clarinette très noire. Et donc, il est là, je pense, à sa place pour continuer le parcours. Je voulais être clarinettiste, c'est pour ça que je l'ai mis là. Mais donc, là, pour savoir lire, il faut savoir vivre. Mais ça, c'est une formule, mais qui pourrait... Enfin, voilà, il faut faire un colloque là-dessus. Pas les assises du roman, on va se tenir tous debout et on va donc dire ce que c'est que d'être debout dans le savoir-vivre. Qui sait vivre ou pas ? Qu'est-ce que ça veut dire que savoir-vivre ? Pour savoir lire, il faut savoir vivre. Qu'est-ce que c'est que savoir-vivre ? Vous voyez que c'est une question qui va très loin. C'est-à-dire, on vit d'une certaine façon ou d'une autre, plus ou moins embuée, plus ou moins ignorante, plus ou moins satisfaite de soi, plus ou moins indifférente à ce qui se passe à côté, c'est-à-dire des massacres continus. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que savoir vivre à notre époque, bien sûr, comme à toutes les époques d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que savoir-vivre? Ben, savoir-vivre, c'est savoir-lire. Savoir-lire, ça ne veut rien dire si on ne sait pas vivre. Voilà.
Savoir-lire, c'est savoir-vivre, et savoir-vivre, c'est savoir-lire. Ça marche dans les deux sens.
Tout ça se tient. Mmh. Bon, vous savez bien que, tout écrivain insistait, Grac, par exemple, en lisant, en écrivant, vous avez tout ça dans le... Oui, tous les écrivains sont de grands lecteurs. Ce qu'on a, on a tendance à oublier, comme s'il y avait une originalité, une spontanéité, une authenticité dans le témoignage vécu, dans le roman qui va s'écrire là, parce que ça relate une expérience sociale. La croyance au social est du même ordre que la croyance en Dieu autrefois. Hein. Donc, la société, Dieu est devenu société, tout ce qui n'est pas social n'a aucune importance. Or, ça n'est pas de ça qu'il s'agit. Tout ce qui accepte les données sociales au point de les reproduire réalistiquement, naturalistiquement, dans le roman qui a toujours été, qui redeviendra toujours la même chose, en tournant dans son accroupissement aux étalages, qui veut dire aux assises du roman... Tout cela, c'est fini. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a une urgence tout à fait autre. Il s'agit du langage lui-même, dans sa profondeur. Donc vous voyez, il est question de poésie, parce que pour savoir vivre, il faut savoir ce qu'est la poésie. Sans quoi on vit à côté de la vie.
Dans La guerre du goût, vous écrivez, « Lire, c'est surtout entrer en soi-même, apprendre à se considérer comme un monde de signes, de messages codés, de rébus. » C'est un déchiffrement de...
Il y a le fait d'être en vie, hein, ce qu'on appelle la vie, ne va pas de soi. Tout individu qui pense que ça va de soi, que la vie, la société devait forcément le produire, le temps arriver jusqu'à lui, et même il peut devenir arrogant, incroyable, se sentir justifié d'exister. Et après tout, pourquoi est-ce que l'histoire, comme dit un de mes amis, ne commencerait pas ce matin ou hier matin, hein? Pourquoi est-ce qu'on... À quoi bon s'intéresser à l'histoire? J'insiste beaucoup sur l'aspect historique qui est là, je veux dire, comme une urgence totale pour moi, à savoir qu'on évacue l'histoire. Moins il y a d'histoire, moins il y aura de lecture, moins il y aura de vie. Parce que quand prendre la mesure de l'histoire, c'est-à-dire du temps transcendantal, si je peux me permettre, c'est évidemment exceptionnellement important. Tout est fait aujourd'hui pour organiser l'amnésie historique et le sommeil de lecture. Si le livre est un bon film, le marché décide que c'est un vrai roman.
Ça nous amène directement à ces voyageurs du temps.
C'est pour ça que je salue au passage ce que j'appelle la cité des livres, c'est-à-dire cette très curieuse enclave dans le monde, je dirais même sur la planète. C'est pas parce qu'Antoine Gallimard est là gentiment et que c'est un ami, mais enfin, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on croit. Il y aura très peu d'endroits, où il y aura une mémoire historique. Il y en a un, tant mieux.
Donc en fait, ces voyageurs du temps, ce sont des écrivains, des poètes, aussi des musiciens, des peintres.
C'est la poésie qui règle tout, hein, voilà.
Alors, ils vous accompagnent depuis longtemps, hein. C'est vrai que ce soit Hölderlin, Rimbaud, Lautréamont, Nietzsche, on les retrouve, on vous retrouve en conversation avec eux de livre en livre. Quand vous écrivez dans Les Voyageurs du Temps qu'ils habitent un temps quadridimensionnel, le passé, le présent, le futur, et même un quatrième terme qui se retrouve tant au début qu'à la fin. Enfin, c'est Heidegger aussi qui passe par là.
Oui, bien sûr.
Vous pouvez nous expliciter un peu ?
Le 20e siècle est déjà loin de nous. Nous sommes rentrés, nous ne sommes plus dans les temps modernes, nous sommes dans l'ère planétaire. Donc c'est ça qu'il s'agit de faire sentir. Donc c'est loin déjà, le XXe siècle, toutes ces aventures, puis celle aussi. Enfin, Dante, c'était au début du XIVe siècle. C'est pour ça que je l'ai mis là en position éminente, pour montrer qu'il peut être là, tout à coup, dans l'église Saint-Thomas d'Aquin, qui s'appelle Saint-Thomas. Qui c'est Saint-Thomas d'Aquin? M'en fous, moi, de Saint-Thomas d'Aquin. J'ai jamais entendu parler de Saint-Thomas d'Aquin. La somme théologique, tout le monde s'en fout. Sauf que si vous prenez le chant 13 et 14 de Dante, il vous le montre, bon... Alors, la question qui se pose. J'ai oublié votre question, excusez-moi.
Mais en fait, c'était un.
Oui, tous ces gens-là.
Au cours de ces poètes que vous.
Mais poètes, oui, c'est ça. Alors, le mot est affreux. Mm. Il faut le supprimer, bien sûr, puisque poésie, poète. Non. Aventurier, guérilla me plaît mieux. C'est Mandelstam qui dit la poésie, c'est la guerre. Voilà. On va rester sur la guerre, si vous voulez. Bien. La guerre, ça veut dire qu'un individu donné, dans un temps donné, agit pour son propre compte, est persuadé d'avoir raison contre tout le monde, que le monde est un mensonge intégral, et va affirmer sa vérité, et va arriver petit à petit à l'imposer. Voilà. Donc, je les prends dans des aventures très précises. Une vie divine, je ne crois pas, sauf erreur de ma part, mais il faut me prouver le contraire, qu'il y ait quelque chose d'aussi précis sur la quotidienneté de Nietzsche, par exemple. Hein. Voilà. C'est-à-dire comment il est ce jour-là, quel temps il faisait, qu'est-ce qu'il mange à la table d'eau d'une pension de famille en étant absolument bouleversé par la bêtise des bonnes femmes qui sont là, avec leur criaillerie, faisant par la bêtise de son temps. Ben, je vais vous lire quelque chose. C'est ce matin que je revoyais ça. Pour faire un jour ou l'autre un article un peu, je vous le ferai peut-être pas d'ailleurs, un article un tout petit peu grinçant sur la réception de mon livre dans certains journaux. Après tout, pourquoi le faire? Pourquoi ne pas le faire d'ailleurs? Oh, j'ai un allié. Je cherche un carnet qui est pris dans le micro que l'on m'a mis dans la poche. Non, vous ne pouvez pas m'aider, Jean, mais j'aimerais bien.
Pour
ça, il s'agit de savoir me dépiauter.
Ah non, bah, je ne vais pas me risquer.
Voilà, je vais y arriver un jour ou l'autre. Et c'est même bien cette séquence qui n'en finit pas, vous voyez.
Mais c'est un temps de...
Avant d'arriver à des formulations. Ah, voilà, ça va. Oh, c'est mon petit carnet rouge, vous savez, sur lequel j'écris beaucoup tout le temps. S'il arrive à sortir... Pour avoir accès...
Je peux rien faire.
Non, attends. Est-ce qu'on peut enlever le micro, peut-être, Sophie? Non, ça va. Restez tranquille. Viens-moi. Ce serait pas mal, quand même, que Sophie m'enlève mon micro pour que je puisse atteindre mon carnet. Évidemment, croyez bien que ce numéro était... répété un certain nombre de fois et que cette intervention n'arrive pas par hasard. Vous me l'enlevez deux secondes, cher ami, merci. Voilà. Nous avons répété longtemps, mais il faut que ça dure au moins une bonne minute. Une bonne minute, voilà. Et nous y arrivons, voilà, c'était notre numéro de magie. C'était notre petit numéro de magie, parce qu'il faut détendre le public. Voilà. Est-ce que le micro est toujours là? Ah, pardon. Alors, voilà. Ce matin, je ne sais plus pourquoi, je me mets à lire, relire. On va donner des exemples concrets, c'est mieux.
Allez-y.
Hein, que de parler comme ça, de la lecture, de l'écriture. Exemple concret. Je réfléchissais au fait que ça m'a été beaucoup reproché dans ce dernier roman. J'ai mis en valeur l'interview publiée dans Le Monde de façon extrêmement prégnante et empathique de la mère de Michel Houellebecq. Document qui, à mon avis, dépasse tout ce qu'on a pu enregistré au cours de l'histoire de l'humanité, comme révélation d'une mère par rapport à son fils. C'est d'une violence extraordinaire, pieusement recueillie dans le journal, qui est quand même notre Pravda, qui s'appelle Le Monde, et avec une photo où l'on voit cette pauvre femme décider que son fils, vraiment, ne mérite qu'un coup de canne dans la gueule qui lui défrait la dentition. Devant cette question de la mère, je me suis permis donc, avec mes voyageurs du temps, de me demander qui avait plus ou moins parlé de cette affaire là-haut. Oh, mais tous ces écrivains, tous ces voyageurs ont eu des histoires de mer. Je vais être court, hein, je vais pas vous réciter la mer de Rimbaud, la mer de Baudelaire, j'y viens, la mer de Hölderlin, la mer de Nietzsche et sa sœur. Ouh là là, ouh là là, ouh là. Bon, allons à la mer. Alors, vous connaissez le poème, c'est lorsque par un décret des puissances suprêmes, le poète apparaît dans ce monde ennuyé, sa mère, épouvantée et pleine de blasphème, crispe ses poings vers Dieu qui la prend en pitié. Ah, connais-je m'y bat tout un nœud de vipère, roman de Mauriac, nœud de vipère, etc. Bon. Vous voyez que Baudelaire, le premier, met tout l'accent sur le fait qu'il y aurait une révulsion maternelle par rapport au surgissement du poète, hein, de la poésie. Le monde est ennuyé, et la mère du poète, c'est la mère de Baudelaire, Dieu sait. Bien. Il y a là quelque chose d'éblouissant, parce que vous avez remarqué que, par exemple, Michel Houellebecq, qui écrit des romans tout à fait importants, souffre de ne pas pouvoir aller vraiment jusqu'à la poésie. C'est vraiment quelque chose qui le travaille beaucoup, hein. Alors, est-ce que les mers sont une sorte de ligue souterraine pour empêcher qu'il y ait de la poésie? Et ça voudrait dire, à ce moment-là, d'après Baudelaire, qu'il faut rester dans un monde ennuyé. Tout à fait actuel. Bon. Alors, je réfléchissais au fait que Mallarmé, par exemple, avait renversé le problème, parce que tel qu'en lui-même, enfin, l'éternité le change, le poète suscite avec un glaive venu son siècle épouvanté. Et ça tient pas. Pourquoi le siècle s'est-il épouvanté? Est-ce que je suis en train d'épouvanter le siècle? Pas du tout. Le siècle s'en fout éperdument. En revanche, cette question de cibler la mer, de ne pas épouvanter, vous remarquez qu'ils emploient le même mot, épouvanter. Hein. Qu'est-ce que c'est que d'épouvanter sa mère? Ah, voilà. Alors, ce monde, dit Baudelaire dans des projets de préface que je voulais relire, aux fleurs du mal. Dieu sait qu'il en a pris plein la gueule. Ce monde a acquis une épaisseur de vulgarité, vous voyez, c'est pas nouveau, qui donne au mépris de l'homme spirituel la violence d'une passion. Mais il est des carapaces heureuses que le poison lui-même n'atteindrait pas. Bon, j'ai un de ces heureux caractères qui tire une jouissance de la haine et qui se glorifie dans le mépris. Mon goût, diaboliquement passionné de la bêtise, me fait trouver des plaisirs particuliers dans les travestissements de la calomnie. Va-t-il écrire une préface pour les fleurs du Holme? Pas du tout. C'est pas la peine. Il est condamné. Voilà. Les pièces condamnées n'ont été publiées qu'en 1949, vous savez ça au moins, hein, ça a mis du temps. C'est comme les liaisons dangereuses de Laclos, c'est comme Ulysse de Joyce avec un fameux procès aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il y a un procès comme ça aujourd'hui? Personne, on noie le poisson. Les uns savent ou devinent, les autres ne comprendront jamais. Voilà. C'est bien Baudelaire, non? Excusez-moi, j'ai jeté un froid.
Je crois pas que j'ai jeté un froid. On est avec ces voyageurs du temps. En fait, le livre commence par des.
Ah. Oui, allez-y.
Le livre commence par des pages sur le corps, la question oui. Du corps. Le corps soumis. Autant biologique, chronologique, au processus du destin. Mais on voit, en vous lisant justement, que ce corps peut être aussi c'est le lieu de l'expérience de la traversée du temps et du voyage dans l'épaisseur du temps.
Bon, mais c'est très très clair. Vous savez, le livre commence parce que le corps s'adresse au narrateur. Mmh. Le narrateur est un peu surpris que son corps tout à coup lui parle. J'ai toujours envie un titre de René Crevel qui s'est suicidé en 1935 quand les choses n'allaient pas entre les surréalistes et l'illusion communiste. Il a appelé ça « Mon corps et moi ». Ça, c'est un titre extraordinaire. Oui, alors le corps a des choses à penser ou à dire qui ne sont pas forcément du goût de son habitant ou qui habite qui. Premier problème, parce que la question du corps, à mon avis, bon, ça on pourrait en parler longtemps, mais c'est aussi avec l'évacuation de l'histoire, l'absence de poésie, une question absolument centrale. Bon, alors, je sais ce qui a dérangé un certain nombre de critiques, notamment féminines, c'est que il est sur une terrasse à Rome. Il écoute le pape, il faut bien pour le dire, oui, c'est le pape, qui parle de résurrection, etc. Alors, il écoute ça avec intérêt, parce que, tout simplement, c'est presque linguistique. Le Christ est ressuscité, là, il est là, vous l'avez vu chez Montaigne, ça se dit dans quelque chose comme 60 ou 65 ans, que vous avez déjà vu ce spectacle. Et alors, il se fait algarader, parce qu'il devait avoir une curiosité, c'est la question de la résurrection. Alors, est-ce que vous croyez à la résurrection des corps? Ben non, hein. Vous ne vous en sentez pas digne. Et moi non plus, d'ailleurs, c'est dur. Vous vous sentez ressuscité avec votre corps? Oh ben non. Oh non. On va passer à une décomposition plus intense qui déjà nous habite. Vous n'avez pas envie de ressusciter. Et la question se pose. Moi, je me la pose pas vraiment parce que j'enchaîne sur qu'est-ce qu'il y a derrière ça, hein. C'est-à-dire la gnose. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'exergue est de l'évangile de selon Philippe, c'est-à-dire bienheureux celui qui est avant d'avoir été, parce que celui qui est a été et sera. C'est-à-dire, c'est sur le temps que ça joue. Je ne vais pas vous dire qu'il faut attendre pieusement de mourir pour espérer une résurrection un jour ou l'autre, le plus lointain possible. Donc, voilà. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais la question est bien posée. Si je m'intéresse à ce que me dit mon corps, qui trouve que je ne suis pas assez correct avec lui, c'est vrai, il a raison. Il me fait des reproches. Mais en même temps, ça produit une gêne profonde. Le corps qui serait en état de résurrection, alors présente, immédiate. Ce que proposent des textes qui ont été enterrés au début de notre ère, quelque part en Égypte.
Vous vouliez nous lire.
Qu'est-ce que c'est que de ressusciter sur place, voilà.
Vous étiez prêt à nous lire quelques pages.
Oui, je veux bien. Oui.
Précisément, qui concerne.
Oui, ça, c'est bizarre parce que je crois que là, le livre. Mais évidemment, tout le monde s'est endormi assez vite. C'est page 143, c'est loin, je sais. Mais enfin, personne n'a signalé ce genre d'incursion à travers ce qu'on appelle la gnose. Gnose, vous avez fait. Oh non, c'est, non, on n'est pas fait de grec. Mais enfin, gnose, ça veut dire connaissance. C'est tout simple. Voilà. Donc, ça, c'est. Voilà ce que ça dit. Je suis un son qui résonne doucement, existant depuis le commencement dans le silence. Je commence. Nous sommes ici, dans les premiers siècles de ce que nous avons l'habitude d'appeler notre ère, dans les manuscrits déterrés par hasard par des paysans en Égypte en décembre 1945. Toute une bibliothèque enfouie, ressurgit, préservée de la destruction. Le son dont il s'agit est une voix inaltérable, la voix du son, la voix du réveil dans la nuit éternelle. Vous recevez ça dans un souffle, vous êtes là pour répondre ou non. Là, bref commentaire, le contraire du roman marketing qui est là. Le fait qu'on voit un film et qu'on voit des images qui se suivent et qui donnent quelque chose. Le contraire, c'est un roman du son. Ce que j'écris est fait pour être écouté. Ça ne fait pas un film, sauf celui que vous avez vu qui est bizarre, hein, parce que avant de savoir de quoi il s'agissait vraiment, il faut être un peu, bon, au courant. Mais j'écris à la musique, j'écris au son. Je n'écris pas pour le cinéma. Je vois d'ailleurs beaucoup, la plupart des écrivains se jettent éperdument dans le fait de faire des films qu'ils font d'ailleurs, hélas. Rob Grier, Lévy, Houellebecq, etc. Évidemment, pure perte. C'est parce qu'ils n'ont pas confiance dans leur écriture qu'ils se précipitent vers le cinéma. Ils perdent des sommes considérables, les films ne sortent pas, ils sont nuls. Eh bien, il faut savoir que ça veut dire qu'ils n'ont pas l'écoute là où il faut. c'est-à-dire précisément dans la poésie. Si vous répondez, voici, citation, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que la main n'a pas touché, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. En réalité, vous avez été jeté en ce monde et vous continuez à être entravé, détourné, empêché, falsifié. Vous avez affaire à une bureaucratie minutieuse qui vous promet la mort. Aucun doute, vous êtes sur la liste du camp. Il vous est interdit de devenir qui vous êtes. Or ici, dans ces papiers que des voyageurs du temps ont préservés des perquisitions et du feu, on vous propose carrément de sortir de la mort. Bonne nouvelle, sans doute, mais énorme blasphème. Vous lisez, vous écoutez, et une illumination, une révélation foudroyante fondent sur vous. Vous êtes sauvés. Alors là, la question énorme, ça c'est... Il faut aller vers Puech, Henri-Charles Puech, un génie, vous ne trouverez pas dans le dictionnaire. Vous avez chez Gallimard deux volumes sur la gnose, ça s'appelle « La gnose et le temps ». Il a fait aussi un livre magnifique sur le manichéisme. La thèse de Puech est très simple, je vous l'ai dit, elle est extraordinairement romanesque. C'est que si vous lisez, oui, si vous lisez, voilà ce qu'il dit. La gnose n'est pas simple conscience que le sujet prend de soi, mais transformation radicale du sujet par cette prise de conscience. Autrement dit, il y a une lecture, revenons au sujet primordial, une lecture cognitive. Si je lis avec beaucoup, beaucoup de concentration, si j'arrive à être ce que je lis, eh bien, je suis dans une sorte de révolution intérieure. Voilà, c'est un roman qui raconte ça, c'est tout.
C'est tout. Et c'est ce combat spirituel.
Ben, le combat spirituel, vous avez vu dans le film, je dis, je pourrais l'appeler le combat spirituel, mais ça serait compris que de 4 ou 5 personnes. C'est le titre que Rimbaud donne dans Une saison en enfer. Là. Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d'hommes, etc. Il y a eu un manuscrit que tout le monde a recherché fébrilement après, qui s'appelait La chasse spirituelle. Il y a eu des faussaires qui l'ont fait sortir après la guerre. Seul André Breton, dont vous avez vu que je célèbre la présence, parce que ce livre pourrait lui être dédié. Pourquoi ? Parce qu'il faut se mettre en état de concentration et aller chercher les poésies de l'autre âme à la Bibliothèque nationale et écrire ces grands livres que sont Nadja ou Arcane 17, etc. Donc là, c'est ça la question essentielle. C'est-à-dire que ça veut dire qu'une certaine expérience de vie transforme ou révolutionne et que un certain nombre de textes fondamentaux, Dieu sait si Breton a insisté là-dessus, sont là pour vous aider. Autrement dit, il y a eu, alors que Maurice Nadeau, à l'époque, authentifiait le texte, etc., qui était une grossière falsification de Rimbaud, seul Breton, dans un texte absolument fameux, qui s'appelle « Flagrant délit », a mis le doigt sur l'imposture.
Dans ces voyageurs du temps, il y a donc cette dimension du temps.
Il y a cette dimension du combat spirituel permanent qui est une guérilla. C'est pour ça que j'ai introduit aussi la figure de T. Lawrence dans ce texte absolument merveilleux qui s'appelle L'art de la guérilla, qui m'a été confié par Pierre Naville avant sa mort. Vous savez que Denise Laville, sa femme, a traduit non seulement Clausewitz, mais Hölderlin, c'est une grande personnalité de notre temps. Et Naville m'a donné ce texte. Ce texte est prodigieux d'intelligence. En deux mots, vous êtes dans le désert. Vous avez affaire à des combattants irréguliers, c'est-à-dire absolument analphabètes. C'est meilleur qu'ils ne soient pas cultivés, parce que comme ça, ils ont une mémorisation intense des ordres qu'on leur donne. Vous transformez le désert en océan. Vous faites une guerre dans le sable interminable, comme si vous étiez en bateau. Et vous évitez les attaques frontales, vous frappez, vous vous retirez, vous frappez, vous vous retirez. Le but étant que l'ennemi finisse par manger sa soupe avec un couteau. Formule admirable. Voilà, ça c'est une stratégie pour un écrivain. Il faut que l'adversaire, qui est partout, finisse par manger sa soupe avec un couteau. La guérilla, La poésie, c'est la guerre. Il est dommage que tous les poètes soient désormais anesthésiés dans la misère totale de la poésie de notre temps, qu'ils soient résignés à avoir leur petit livre, leur petite collection de merde, leur petit poème. La poésie, c'est grandiose. La poésie, c'est une guerre grandiose.
C'est une guerre contre la marchandise, vous disiez tout à l'heure, contre
la marchandise,
le spectacle, le sociologique.
Oui, tout ça, oui, oui. Ben, tout ça, c'est la fin de la poésie. C'est la fin de l'être humain dans c'est son évacuation résignée au suivant. Oui. Voilà. Moi, je fais un peu de... Oh, allez, on va risquer un grand mot, je fais un peu de métaphysique, allez.
De la métaphysique et de la résistance par le biais de la métaphysique.
Ben, il me semble que ça me vient comme ça, vous voyez. Mm. Voilà. C'est ce que j'ai envie de dire. Sinon, je m'ennuie. Donc, faut pas s'ennuyer. Se demander, c'est ce qu'on fait là. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Être constamment étonné par le fait. Ça, c'est des questions qui traînent partout, si on s'en empare. Comme dit Pascal, je vois que des somnambules.
En ce sens, chacun de vos livres, on peut dire qu'est un livre de combat.
Oui.
Un livre guerrier.
Oui, c'est pour ça qu'il y a des avancées, des reculs. C'est normal. J'attaque, on m'attaque. Parfaitement normal.
Est-ce que vous
pouvez... Je vais vous dire par exemple un truc. Ça va vous amuser. Je pêche dans la presse. Figaro Madame, ça vous plaît? Non. Bon, moi non. Mais voilà ce que je lis sous la plume de... Pigiste, je suppose, qui s'appelle Valérie Gans. Les voyageurs du temps de Philippe Solers. Philippe Solers bande encore. Je vais demander d'ailleurs à mon éditeur et ami de faire une énorme publicité avec cette seule phrase. En très très gros caractère, parce que je vois un effet énorme là. Philippe Solers, bande encore, signé Figaro Madame. J'ai pas besoin de continuer. Non, parce que si, quand même, c'est intéressant pour voir à quel point on vit dans une sorte de préchi-précha pseudo-féministe. Philippe Solers bande encore. Là, on est au début du livre, parce qu'il a des ennuis avec... des objections de la part de la femme avec qui il se trouve à Rome. Philippe Solers bande encore, on est content. Là, je vois que c'est une jeune femme, que je suppose jeune, bien sûr, parce que vraiment, qui aurait dû dire, Philippe Solers bande encore, on est contente, au pluriel. Non.
Elle aurait pu.
En tout cas, elle ne le dit pas. Alors, Philippe Solers bande encore, publicité, là. Moi, je rêve d'une page entière. Philippe Solers bande encore, Figaro, Madame. Ça dit tout, vous ne trouvez pas? Oui. Mais à son corps défendant, si j'ose dire, la tête n'est pas d'accord. Ouais, ouais. Vous savez, vous remarquez l'extraordinaire distinction. C'est très Figaro, quoi. Hein, très Figaro, non? Ouais, ouais. Que celui qui n'a pas un jour rapporté cette excuse à la maison lève le doigt. Rapporter une excuse à la maison. Est-ce que vous imaginez où nous en sommes? Pardon.
Non, mais je vous en prie.
C'est comme une autre qui parle de mes fanfaronnades, de mes rodomontades, qui traque. Mais c'est extraordinaire. Là, je touche, il faut insister un petit peu, je touche quelque chose. Hein, oui, je crois. C'était déjà dans Femme qui a touché beaucoup. C'est un roman. Vous savez, vous pouvez le reprendre. Prenez-le, il est en livre de poche. Il n'a pas une ride. On pourrait le commenter très longuement. C'est écrit il y a 25 ans. Eh bien, ça empire.
Il y a une citation de femme dans le livre, qui est cette citation, justement.
Je me demande quel est l'écrivain à la fin du XXe siècle qui a osé écrire ce livre.
Oui. Citation sur les mères.
Le monde appartient aux femmes, c'est-à-dire à la mort. Là-dessus, tout le monde ment. Tout le monde ment sur la mort, tout le monde, oui. Ah oui. La mort, nous y reviendrons, si vous voulez. Par exemple, avec ce livre fabuleux que vous allez tous lire, ce sont les mémoires de Claude Lanzmann. Vous verrez comment il est, ce chevalier qui dit la vérité sur la mort. Lui est presque lui seul.
Les mémoires de Claude Lanzmann qui vont paraître au mois de mars chez Gallimard.
Oui. Précipitez-vous.
Je n'ai pas lu encore.
Vous verrez ce que c'est que la dénégation, la force de la dénégation par rapport à ce qui lui est arrivé quand il a fait Shoah, etc. Bon, c'est l'actualité. Hein. Vous avez cet évêque Williamson qui chie comme ça. D'ailleurs, c'est un anglican converti au catholicisme. Mais il ne faut pas dire que ça n'a pas d'actualité. Voilà. Là, on reviendra sur la mort, Nathalie, l'autre fois.
Là, on peut-être revenir un tout petit peu à la gnose, si vous le voulez bien. Donc, cette façon de s'extraire de la chronologique, de ce que vous appelez le temps générationnel.
Le biopouvoir.
Le biopouvoir.
Bah oui. Il y a un temps
biologique. Le temps biologique, c'est ça.
Bah, le temps biologique. Vous allez le concrétiser probablement sur votre tombe. Il y aura votre date de naissance et la date de votre mort. Nous sommes d'accord.
Nous sommes d'accord.
Voilà. Et les familles veillent à ce que ça soit dans cet ordre-là.
Et cette façon, par exemple, d'inscrire votre
Je change le calendrier, oui.
Dans le calendrier Nietzsche.
Vous avez vu que mes amis faisant ce film ont mis très discrètement à la fin, en chiffres romains, l'année 121. Pourquoi ? Parce que je reprends déjà depuis Une vie divine le calendrier établi par Nietzsche dans un geste d'ambition démesurée, mais que j'approuve. De faire un nouveau calendrier à partir de son illumination du 30 septembre 1888. J'explique ça en détail dans Une vie divine. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très simple, c'est que tout le monde adopte le calendrier chrétien. Hein ? Si je suis bouddhiste, japonais, n'importe où, je ne signe pas une transaction. C'est un calendrier qui est devenu exclusivement économico-politique. Je ne peux pas signer une transaction financière aujourd'hui avec une autre date que 2009, sans quoi elle ne sera pas validée. Donc vous voyez que là, encore une fois, si vous êtes dans cette datation, vous êtes obligé de vous conformer à un certain nombre d'interprétations, de fantasmes. C'est un calendrier chrétien pour la planète tout entière. Or, les gens sont chrétiens une fois sur trois ou quatre, il n'y a pas que ça. Voilà, moi je crois que nous sommes en 121.
Est-ce qu'on peut parler aussi des lieux dans ce livre ? Parce qu'il y a effectivement la dimension du temps, mais il y a aussi la dimension de l'espace. On vous retrouve dans des lieux, on m'a parlé du 7e arrondissement, de ce périmètre.
17e, oui, ça c'est une unité de lieu. Mm-hmm. Je dirais même que j'ai réfléchi à ça, c'est-à-dire qu'il fallait une unité de lieu. Je tourne autour, je vais faire mon travail aux éditions, etc. Mais tout à coup, ça s'est mis à vivre, à résonner. Et donc, l'unité de lieu ouvrait sur une multiplicité du temps, justement. Le lieu est unique. On fait le tour du pâté de maison, le tour du quartier, on passe rue de Lille. Ce qui me semblait intéressant, en plus, il y a l'histoire des souterrains mystérieux. Dans la maison d'édition, on peut déboucher, s'enfuir, déboucher qu'est Voltaire, prendre des bains. L'histoire est là. Une histoire très, très, très curieuse, c'est-à-dire que c'est plein d'individus comme contradictoires, et heureusement qu'ils le sont, ça a toujours été la doctrine du pacte avec l'esprit de Gallimard, bon, de Gaston Gallimard. Et donc, ça m'a paru tout à coup être extraordinairement romanesque. On peut faire des essais sur l'édition Gallimard, sur la NRF, etc. Des éditions. Pourquoi pas, il faut qu'il y ait du savoir, des informations. Mais de là en tirer une conséquence romanesque, c'est tout à fait autre chose. Or, il s'est passé là des œuvres. Enfin, c'est étonnant de voir qui a respiré là en passant, des gens qui ne se saluaient même pas. Qui étaient ennemis, qui se seraient parfois fait fusiller. Comme disait Bauriac, vous comprenez, et vous voulez, à la fin de la guerre, Mais c'était la lutte alors pour le pouvoir. Et c'est alors entre Malraux et Aragon, c'est un qui serait le premier à faire fusiller l'autre. C'est très romanesque. On peut lire ça comme des faits, mais avoir connu un certain nombre de personnes, par exemple Georges Bataille, dont j'ai la plus grande admiration, avoir eu ce contact, lire les livres, savoir ce qui s'est passé, voilà. Et j'insiste sur le fait que Poésie de l'Ottawa-Mont, il en est resté que 5 exemplaires, s'il n'y avait pas eu, ou qu'une saison en enfer, qui valait 1 franc. Publié à l'Alliance typographique universelle à Bruxelles, dans une petite rue, il a fallu je ne sais pas combien de temps pour qu'on se rende compte que. C'est pour ça qu'il faut tempérer. Voilà.
Est-ce que parmi ces voyageurs.
La marchandise n'a pas forcément raison. Voilà.
Est-ce que parmi ces voyageurs du temps, justement, Lautréamont et Rimbaud occupent une place un peu à part?
Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Parce que finalement, quand on analyse ça à la loupe, on n'a pas fait à part depuis ces années très étranges. Hein, c'est la fin de.
Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire par on n'a pas fait un pas?
Je vois rien qui soit dans l'ordre du français, hein, si on prend le français, qui soit comparable comme nouveauté extraordinaire. Voilà, je ne vois pas. Vous m'avez demandé de citer mes 10 livres préférés.
Oui.
Et ça m'a posé un problème, parce que tout de suite, j'ai une bibliothèque quand même. Hein, bon. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Alors, je vais lui dire Homère, la Bible, patati et patata, puis alors on n'en sort plus. Alors, je n'ai pris que des auteurs français, exprès. D'ailleurs, la statue du Bernin, Louis XIV, qui est là, Bernin, admirable sculpteur, vous tournez autour de ce Louis XIV à cheval, et vous avez vraiment quelque chose qui est tellement génial que bon. Alors, je vous ai répondu, je crois, que, je ne citerai que 10 auteurs français. Et alors, je les énonce, si vous voulez bien, c'est Pascal, c'est Saint-Simon, c'est Voltaire, c'est Chateaubriand, c'est Baudelaire, c'est Proust, Lautréamont, Rimbaud, Proust, André Breton, Manifeste des surréalismes, et Céline Ferry pour une autre fois. Voilà. Voilà mes 10 livres préférés. Alors vous allez me dire, mais il n'y a pas d'étrangers. Eh bien non, ou plutôt si, ils sont tous étrangers pour nous.
Pour vous aussi.
C'est nous qui sommes leurs étrangers. Pardon ? Je trouve pas. J'avais franchement pas la place. Il me fallait plutôt Saint-Simon. Maintenant, on peut faire 10 femmes. Mais Nathalie ne m'a pas demandé mes 10 livres de femmes préférées.
Non, je n'ai pas mis
les citants. Ce qui, je dois dire, a été un soulagement, parce que je ne m'attendais pas à une telle libéralité.
Mais ce choix de prendre des... parce qu'effectivement, moi, je m'attendais à vous voir citer Dante, vous voir citer...
Eh bien, non. Pourquoi voilà. Pourquoi ? Parce que je pense vraiment que dans la tourmente où nous sommes, depuis fort longtemps, les Français ne sont plus dignes d'eux-mêmes. Et qu'il faut leur rappeler un petit peu ces très grandes choses. Ils ne sont pas dignes de leur passé, présent, avenir. Voilà. Qui ignore le passé ne peut pas être dans l'avenir. Que des Français. Puis d'abord, j'écris en français. Il faudrait que ça se sache. I am too French, comme disent les Américains.
En même temps, dans un entretien, je ne sais plus dans quel journal, j'ai vu que vous vous définissiez comme un auteur européen de langue française.
D'origine française.
D'origine française, pardon.
Oui. Ça, j'y tiens beaucoup. Mais donc d'origine française. Et puis ensuite européen. Seulement l'Europe,
rien
ne va. Donc, voilà. La France est le pays pauvre qui se déclare tel de l'Europe, alors qu'elle devrait se savoir être la capitale de l'Europe.
Mais cette idée d'être un auteur européen...
C'est la haine de soi, c'est la culpabilité, absolument. C'est effrayant, effrayant. J'ai quelques amis français, je les compte sur les doigts.
Mais cette idée d'un auteur européen d'origine française,
pourquoi pas un auteur mondial, ça n'existe pas à part moi. Hein. Mm. Parce que, je vous le dis tranquillement, hein. Ça n'existe pas à part moi parce que tous les intellectuels, d'abord tous les intellectuels ou les écrivains français se foutent éperdument de l'Europe. Il n'y en a pas un qui soit en train de... Non. Tout se passe au Proche-Orient et aux États-Unis d'Amérique, c'est tout. Pas pour moi.
C'est quoi votre souci de l'Europe ?
Il y a l'Italie, il y a l'Espagne, il y a l'Allemagne, il y a pour moi une vie en Europe absolument, mais merveilleuse. Merveilleuse. Venise, par exemple.
Mm. Par exemple. Par exemple. Mm. Et vous auriez pu, quand je vous ai demandé ces 10 livres, me citer des 10 auteurs européens ?
Des livres des auteurs européens aujourd'hui ?
Oh non. C'est voyageurs du temps.
On va prendre les plus grands, alors, carrément. Une fois que vous avez Shakespeare, vous avez tout. Une fois que vous avez Dante, vous avez tout. Une fois que vous avez Cervantes, vous avez tout, etc. La situation française est très différente de tous les autres pays d'Europe. La littérature française est celle qui est la plus proliférante, la plus contradictoire, la plus riche, de très loin. Partout ailleurs, vous avez un fondateur. Si vous dites Montaigne, oui, si vous voulez, mais il y a autre chose aussi. Donc c'est pour ça d'ailleurs que ça gêne et que ça doit sortir de l'image. Parce que c'est trop nuancé, c'est trop compliqué, c'est trop contradictoire, c'est trop paradoxal. On ne peut pas aimer à la fois Sade et Bossuet. Ou Sade et Pascal. Bref, j'ai beaucoup écrit là-dessus et je crois que je vais insister à nouveau parce qu'il y a une honte d'être français qui est facilement explicable par des raisons historiques qui sont concentrées sur la Révolution française. Voilà.
Développer un peu.
Place de la Concorde.
C'est tout.
Oh oui, on n'en finirait pas, là. Il y a une culpabilité effroyable de tout ce qui... Enfin, c'est ce que j'appelle les placards dans les cadavres. Vous ne comprenez pas les cadavres dans les placards. C'est, pour la période récente, c'est 40-42, c'est Vichy, ça n'arrête pas de passer, ça reste là, c'est le Veldiv, c'est l'antisémitisme, c'est le fascisme, la collaboration... Vous avez ça, ça remonte, vous avez après la collaboration communiste, après le pacte qu'on ne doit plus appeler germano-soviétique, mais stalino-nazi. Après vous avez la guerre d'Algérie, qu'il était encore interdit d'appeler la guerre, mais qu'on avait le droit d'appeler le maintien de l'ordre. Hein. Ça fait des mois dans les hôpitaux militaires, je sais de quoi je parle. Puis après, vous avez eu 68. Alors là, un spectre qui risque... est-ce qu'on ne va pas y avoir ? Il faut liquider. Un pays qui n'arrête pas d'avoir honte de soi et de vouloir... Voilà, c'est clair. Quand on lui dit, vous ne méritez pas vos grands écrivains, vous ne méritez pas votre archive, vous ne méritez pas d'exister en étant si médiocre, ce que Baudelaire appelle la tyrannie des médiocres. Hein. Alors, ils ne sont pas contents. Bah, tant pis.
Vous vous sentez très solitaire comme...
Pas du tout. Tous les morts sont là.
Parmi les voyageurs du temps.
Oh là là, il y a une foule, vous ne pouvez pas savoir, qui demande de l'aide. Toutes les nuits, ils sont là.
Il vous appelle.
Hello, oui, comme Darablet, vous savez le spectre. Hello. Oh là là, j'ai pas le temps pour les mortels vivants, pour les morts vivants. Les morts sont très en danger. Les morts, les pauvres morts, ont de grandes douleurs, vous savez, comme dit Baudelaire admirablement. Hello. Ah oui. Et vous ne pouvez pas savoir toutes ces voix. C'est très émouvant. Pas du tout solitaire, non. C'est si je rencontrais beaucoup de gens que je le serais. Oh, pas people pour un sou.
Peut-être que comme vous êtes Très nombreux ce soir dans la salle. Je vais vous proposer de prendre la parole si vous avez une question à poser. Personne ? Josiane ? Merci Josiane.
Moi, je voudrais vous poser... Ça marche, ce truc ? Oui. Je voudrais vous poser deux questions. Avant, je voudrais faire une petite remarque. Je voudrais finalement dire du bien d'une profession qui est assez décriée, et parfois justement décriée, qui est la mienne, celle de journaliste littéraire. Parce que je trouve que pour lire Les Voyageurs du Temps et pour faire une critique intelligente des Voyageurs du Temps, il faut aimer la littérature et avoir le sens de la musique, avoir l'oreille musicale. Et il se trouve que le jour de la sortie de votre livre... les critiques importants, dont Nathalie Crum qui est ici, dont Michel Crépu qui est ici, dont Philippe Lançon qui n'est pas ici, Marc Lambron, des gens qui savent lire, ont fait des critiques extrêmement positives des Voyageurs du Temps. Il y a eu cette espèce de rassemblement qui n'y a pas toujours. Philippe Lançon est bien entré en dialogue avec vous et de temps en temps dans Libération il fait un peu la fine bouche. Donc là c'était Solaire, ce Grand Cru 2009, c'était vraiment bon. Évidemment il y a eu ensuite quelques papiers imbéciles, mais ça c'est pas... c'est pas tellement important. Au fond, c'était des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Il y en a toujours. Et ce que je voulais vous demander, c'est que moi, dans le livre hebdo, par exemple, on a dit que c'était un livre où vous étiez dans une sorte de resserrement sur vos fondamentaux, etc. Ce qui me paraît pas tout à fait faux, ce qui me paraît même assez juste. Moi, j'ai vu aussi ce livre un peu comme une sorte de temps retrouvé, non pas en faisant une allusion à Proust, mais comme une manière pour vous... en effet, de faire un rassemblement, de faire le lien entre tout ce que vous avez fait dans votre œuvre, que ce soit de Paradis ou des textes qu'on a considérés comme plus d'avant-garde, et ensuite, par exemple, en studio, où vous rendez particulièrement hommage à Hölderlin et à Rimbaud. Et donc, une espèce de volonté un peu totalisante. Donc, je voudrais savoir si vous voyez un peu les choses comme ça. Et puis, la deuxième chose dont Nathalie Crum n'a pas beaucoup parlé, et dont, finalement, certains critiques ont très bien parlé, notamment Jean-Claude Urbain dans L'Humanité, c'est peut-être pas pour rien, mais aussi une très jeune femme dans Métro, et qui est aussi une manière de continuer quelque chose qui est toujours présent dans votre œuvre, c'est la critique sociale.
Ah oui. Oui, merci. Pour la première question, je pense que... Enfin, je ne peux pas faire autrement. Je fore, c'est du forage, sur les mêmes. Je fore sur les mêmes gisements. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que je crois connaître par cœur, géologiquement, historiquement, littérairement, philosophiquement. Je crois connaître, et franchement, je relève le défi de lecture de n'importe qui. On peut jouer aux échecs. Je fore et je trouve toujours quelque chose de nouveau. C'est cette question qui m'importe. Pourquoi un certain nombre de textes, pas forcément religieux, la Bible, vous savez, on peut y rester longtemps, enfin, le Talmud est fait pour ça. Mais pourquoi, pour des textes aussi importants que Dante ou d'autres, ou Hölderlin, pourquoi on peut toujours trouver encore autre chose. J'ai raconté que j'ai acheté... que j'ai acheté 10 éditions des Illuminations. Et en plusieurs caractères, c'est-à-dire, bon, j'essaye de grossir les caractères. Et bon, je pense que je peux arriver là pour presque à l'essentiel. Je sais pas. D'ailleurs, c'est un magazine qui m'éreinte d'habitude. Sans savoir pourquoi, eux-mêmes, d'ailleurs, au fond. L'ostracisme ne donne jamais ses raisons véritables. Donc, c'est l'Express. Il y a une pigiste qui a dit, il y a un des points forts, c'est sur Rimbaud, on peut se passer de relire, comme si elle avait lu, Une saison en enfer ou Les Illuminations. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que l'Express avait fait une grande publicité au livre de Jean-Jacques Lefrère, qui m'a envoyé une lettre de félicitations pour ce qui concernait Lautréamont et Rimbaud. Au moins, c'est un spécialiste, je ne vais pas lui demander. Mais comme il l'avait dit à l'Express, alors il fallait pas exagérer, parce qu'il aurait pu écrire une lettre de rectification, vous voyez le genre. Voilà. Bon, c'est les prudences misérables Un adversaire. Bon, ça, c'est la première question. La deuxième, c'est sur la critique sociale. Écoutez, alors là, vraiment, j'arrête pas. Et je considère qu'il y a maintenant deux sortes de personnes en cours, vraiment. Ceux qui trouvent que finalement, la société s'impose. Elle n'est pas bonne, mais d'abord on pourrait la réformer, ou alors on pourrait même la révolutionner. Mais en tout cas, c'est la société. C'est la société d'abord, c'est comme j'ai dit, c'est Dieu. C'est Dieu. Et donc, vous avez raison, parce que cette critique dans le métro, c'est une critique qui a souligné le fait que, en effet, tout était. L'individu désormais était entièrement déterminé par. Il naît social, il vit social, il travaille social et il meurt social. Voilà. Alors là, cette absence, c'est comme si on voulait faire de la planète, en effet, un camp de surveillance et de concentration, ce qui est en cours. Tout est social. Donc Orwell, vous savez, a vu ça venir, mais il faut raffiner, il faut aller plus loin, il faut d'autres analyses. Le biopouvoir, par exemple, la reproduction de l'espèce, tout ça, la technique, etc. Tout ça est en plein boom. Et qu'est-ce que la liberté par rapport à cette fermeture? C'est la petite question que je pose, et je la pose sur la capacité de lecture. Parce que c'est ça qu'une tyrannie en cours suspecte a priori. Ça s'est vu sous des formes grotesques, Rush dit par exemple. Mais c'est pas la censure dure qui est importante. C'est la censure insidieuse, douce, ce que j'appelle noyer le poisson. C'est-à-dire, comment voulez-vous quand il y a 600 livres et une propagande effrénée pour des auteurs qui vont disparaître très bientôt, ou bien des auteurs anglo-saxons qui n'auront pas le moindre intérêt dans 2 ans, comment voulez-vous qu'on s'intéresse encore aux fondamentaux? Alors la crise pourrait avoir un mérite, on ne sait pas. Une grosse crise énorme, tempête, mévente des livres, abrutissement général. C'était comme ça en 1870. D'où l'autre Hermon et Rimbaud. En tout cas, mon livre a été publié en janvier, et heureusement pour moi, parce que je passe entre les gouttes, mais bientôt ça va être pire.
D'autres questions?
Et l'effet est probablement symbolique à long terme, voilà.
Oui, vous avez...
Je l'interromps parce que je voudrais dire qui parle. Il s'appelle Thierry Sudour et il vient de soutenir une thèse absolument extraordinaire sur Paradis. Et je crois qu'il faudrait...
Avec félicitations du jury.
Avec les félicitations du jury. Voilà. Et je voudrais qu'un jour cette thèse soit publiée parce que je pense que même les gens qui ont lu Paradis, sauf lui, se sont laissés porter par la musique, par les sonorités, par certaines choses qu'ils ont comprises, mais n'ont sûrement pas comprises toutes les allusions que Thierry Sudour a réussi à décrypter. 2516 notes.
2516 notes. Mais ça, c'est quelque chose.
Merci. Bon, je vais essayer de ne pas rougir. Moi, j'avais une question. Je voulais rapprocher. Jacques Henrique parlait d'une odyssée. Donc, je pensais à Ulysse, effectivement, qui, de temps en temps, va voir les morts une fois, et va voir notamment son père Laërte. Et puis, vous avez parlé d'Hamlet, qui, lui, ne va pas chercher les morts, mais est cherché par les morts. Et alors, je me demandais, dans la lecture, si c'était vous qui alliez chercher les auteurs, ou si il arrivait que ce soit eux qui viennent vers vous. Autrement dit, est-ce qu'il y a des livres qui vous ont été livrés par le hasard, ou bien... Est-ce que vous avez lu de manière presque encyclopédique, d'une certaine manière, et qu'ensuite vous n'aviez plus qu'à aller les chercher, d'une certaine manière, ces voyageurs du temps? En gros, je voulais savoir un petit peu si c'était eux qui étaient venus à vous, ou vous qui étiez venus à eux. Ça va peut-être dans les deux sens, d'ailleurs.
C'est les deux. Il est vrai que je cherche tout le temps la note, ou j'essaye, la note fondamentale qui s'est dite ici ou là. Bon. Chez Kafka, par exemple, je la trouve, parce qu'elle est rare. Elle est extrêmement en contradiction avec toutes les images qu'on sait. Comme j'essaye de dépoussé, enfin détartré. Hein, c'est très, c'est un terme employé par Dante d'ailleurs. Donc il y a le tartre dans les ordres religieux. Ben voilà, le tartre est là. Alors, on essaye de détartre. Donc ça suppose évidemment une patience assez grande, mais faut pas que le travail se voit, quoi. Donc je vais vers eux parce que je peux pas faire autrement, c'est ceux-là et pas d'autres. Hein, sinon je perds mon temps. Je vous dis, il est étonnant qu'on relise pour la 50e mille fois la même chose et qu'on la trouve neuve. C'est ça qui me fait signe. Donc, on pourrait dire aussi bien que la chose neuve, incarnée ici ou là par un voyageur X, vient vers moi. Donc, au fur et à mesure que je fais des progrès personnels, enfin, progrès n'est pas le mot, je suis de plus en plus près de ce qu'on a en musique, je suis de plus en plus près de la note fondamentale. En effet, j'ai des interlocuteurs. Il y a une lettre sublime de Machiavel que vous connaissez, bien sûr. Il est en exil à Florence, tout va mal. Et il est condamné. Enfin bon, il n'est pas comme Dante condamné à mort. C'est déjà aussi une aventure. Qu'est-ce qu'il y a de plus romanesque que Dante condamné à mort en écrivant la Divine Comédie? Vous connaissez quelque chose de plus romanesque? Machiavel, il lui rentre c'est une lettre fameuse. Et le soir, bon, alors qu'il a passé sa journée dans les bois, faire des histoires d'agriculture, il rentre, il s'habille soigneusement, princièrement, et il rentre en dialogue avec Aristote. Merci. Ça me plaît assez. Donc il y a eu des gens comme ça pendant des millénaires, on peut dire, ouais, comme les Juifs qui lisaient la Bible. Ils avaient bien raison, ça tient le coup.
Devant Nathalie Crom, il y a un autre livre. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? Qui s'appelle Grand Beau Temps.
Oui.
Qui est là.
Pardon, Grand Beau Temps,
c'est là.
Il faut le montrer, oui. Mais ça, c'est pas moi, c'est un jeune homme qui s'appelle Guillaume Petit, et qui brusquement, alors que personne ne lui avait rien demandé, a commencé à fouiller dans mes textes et à faire ce recueil. Et il a 28 ans, 30 ans, pas, je crois. Il est à Rouen, il est chômeur, il n'a aucune espérance de vie sociale, il n'est pas du tout social, il n'a pas voulu faire quelque chose de social, il a fait exactement tout le contraire, il se trouve que ça a pu être édité, il est remercié au début. C'est donc ce que Stendhal a appelé le lecteur bénévole auquel il appelle, vous savez, très souvent. Oh, lecteur bénévole, c'est les préfaces à Lucien Neuwen, vous savez. Alors qu'il termine presque tous ses livres à une certaine époque, To the Happy Few. Oh, Stendhal, Happy Few. Les heureux très peu nombreux. Voilà, la Chartreuse de Parme, c'est To the Happy Few. On en parle encore.
D'autres questions?
C'est bien.
C'est bien?
Merci.
Vous êtes sûr?
Si quelqu'un, comme disait Karl Kraus, a quelque chose à dire, qu'il se lève et qu'il se taise.
Alors, je vous remercie, Philippe Solers. Merci beaucoup.